Bonjour, c'est super d'être ici à Nîmes. Il fait carrément plus chaud qu'à Londres. Donc déjà, je loue le Seigneur pour ça. Et vous avez le bonjour de la reine Elisabeth. Elle m'a donné un coup de fil avant de partir en disant, faut dire aux Nîmois que je vous salue comme ça. Non, je blague un tout petit peu, donc il faut vraiment m'excuser pour ça. Pour dire ce qu'on va faire dans à peu près... Les 30 minutes qui viennent, je vais vous présenter l'Eurasie, où on fait pas mal de travail. Et après, je vais plonger tout de suite en Jean 21, et nous allons voir un peu la mission de Dieu qu'il a donnée à Pierre, même après avoir renié Jésus, et la mission que Dieu a pour vous en tant qu'Église. Donc la mission de Dieu, ce n'est pas pour Wycliffe, ce n'est pas pour la WEC, ce n'est pas pour d'autres organisations missionnaires, c'est doter à son Église. La mission de Dieu, c'est pour son épouse. Et ça, c'est quelque chose, je pense, à recalquer un peu dans nos pensées. Donc voilà, on va découvrir l'Eurasie. Et déjà, on n'a pas fait de répétition, donc mes excuses si je vais trop vite, ou on va voir. Et vous êtes un peu mes cobayes. On n'a jamais fait cette présentation avant, donc vous pouvez dire au ciel, ah oui, nous étions parmi les premiers. Donc voilà. Donc c'est quand même bien, hein, on a beaucoup de privilèges à ce sens. Donc vous êtes sur le point de découvrir l'Eurasie en à peu près 10 minutes. Vous savez que l'Eurasie est célèbre pour ses montagnes et renommée pour ses vastes toundras, mais peut-être moins connu pour les déserts les plus secs au monde. L'Eurasie, malheureusement, est leader mondial dans les mégalopoles. La moitié des 20 plus grandes villes du monde se trouvent en Eurasie. Karachi, au Pakistan, avec une population maintenant de 25 millions de personnes. Donc si vous êtes parisien, vous n'avez rien à craindre. Hein. La circulation... dans ces villes, les capitales, vraiment c'est quelque chose à voir. En même temps, on trouve que l'Eurasie déplore le déplacement de millions de personnes au cours de ces 3 décennies. Mais c'est quoi l'Eurasie? Pour nous, dans le monde de la traduction biblique, cela représente une fenêtre sur l'Europe entière, sur une partie de l'Asie et l'Afrique du Nord. Et on aime beaucoup utiliser le terme Eurasie parce que c'est un peu code. Parce que quand on parle d'Afrique du Nord, déjà il y a une sensibilité au niveau du travail qu'il faut vraiment essayer d'éviter. L'Eurasie est importante pour beaucoup de choses, des histoires et héritages riches et remarquables. C'était le berceau de la chrétienté et c'est la source d'antiques civilisations avec les systèmes d'écriture vraiment variés. L'Eurasie est une vaste région avec des chiffres impressionnants. Donc vous voyez, il y a 76 pays. Un quart de la population mondiale vit dans l'Eurasie. Et presque tout le monde n'est pas touché par l'Évangile pour l'instant. Donc un quart du monde dans cet endroit, dans cette fenêtre du monde qui n'est pas touché, qui utilise 632 langues, et je dis utilise parce qu'il y a parmi ce chiffre 116 langues des signes qui sont utilisées. Des défis existent, comme par exemple des langues sans alphabet, des langues maternelles que les jeunes délaissent en faveur des langues hégémoniques. Oh, de toute façon, vous savez... Voilà, si je ne suis pas français, je suis extrêmement francophile, donc faut m'excuser. Hein. Et sur le plan culturel, il y a des langues qui meurent, mais les gens ne meurent pas, mais ils ont choisi de commencer à enseigner à leurs enfants, dès le berceau, une autre langue qui, à leurs yeux, est plus importante. Wycliffe France favorise les partenariats et les amitiés avec des organisations ayant à peu près la même vision et les mêmes valeurs. SIL Eurasie est un partenaire muni d'équipes autochtones dans plus de 120 projets. Donc on a 120 projets en Eurasie qui sont en cours pour l'instant. Ces projets visent la traduction de la Bible, mais aussi une analyse scientifique de la langue en question, parce que pour l'instant, la langue n'est même pas codifiée, n'est même pas écrite. Et afin de fournir un alphabet et une orthographe approuvés par la population autochtone et les gouverneurs de chaque pays. Si vous regardez ces chiffres, je vais vous donner 5 secondes à regarder ces chiffres vraiment spectaculaires et assez hallucinants à moi. C'est presque inimaginable que presque 1 milliard de personnes n'aient pas accès à la révélation complète de l'amour de Dieu contenu dans la Bible. Moi, j'ai fait des calculs parce que je suis geek et je fais des choses comme ça. Ça me plaît. Je regarde les trains. Voilà. Donc, il faut parler à ma femme pour lui demander ça. Il y a 878 millions de personnes qui n'ont pas une seule parole de la Bible. Et donc, à la fin du culte, vous pouvez partir. On a beaucoup, comment dire en anglais, freebies. Donc, ça, c'est des choses gratuites. Ça, c'est la Bible pour à peu près 1/6 du monde. Et puis, moi, je vais faire une bonne manip ici. Mais cette Bible n'a rien. Parce qu'il n'y a même pas une seule parole de la Bible qui est écrite dans ces langues. Et donc, vous voyez le défi. Donc, vous pouvez prendre ça, et c'est une petite aide mémoire. Chaque fois qu'on met la liste pour aller faire des courses, vous allez penser, peut-être prier pour les gens qui n'ont pas accès pour l'instant. Mais la bonne chose quand même, c'est qu'on a un travail, j'ai dit qu'on a 120 équipes qui travaillent sur le terrain, dans 218 langues déjà. Et déjà, on a 99 Bibles entières qui sont annoncées et mises en pratique en Eurasie. Presque 200 Nouveaux Testaments et presque, comme vous voyez, des extraits des livres entiers de la Bible qui sont déjà devant les gens. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans une ambiance musulmane, on va toujours commencer avec l'Ancien Testament. On va toujours commencer avec ça. On va commencer avec les psaumes. Et ce que nous faisons, nous érigeons des sites web et on commence à insérer des choses en faveur de la langue maternelle. Et tout d'un coup, on commence à mettre des proverbes en place. Et puis, il y a la discussion. Les gens disent, « Ouais, j'aime beaucoup cette proverbe. Ça vient d'où ?»« Ah, ça vient de la Bible chrétienne. » Et donc, petit à petit, on commence à vulgariser la vérité, la parole de Dieu. En outre, par rapport à ces sites développés pour cette vulgarisation, comme j'ai dit, des choses comme les proverbes, on aime beaucoup les histoires d'Esther et aussi de Jonas. Et là, ça donne toute une histoire où on voit Dieu à l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui pourra s'expliquer par après. En résumé, voilà une bonne définition de ce qu'un projet. On sait un peu après. Pardon. Voilà, c'était la première fois qu'on n'était pas en accord là. Mais ici, vous voyez quand même que ça, c'est à peu près un bon survol de ce que nous faisons. Donc, on fait la traduction biblique. On fait l'annonce et la mise en pratique des livres traduits, mais on fait dans beaucoup de cultures orales des récits bibliques à l'oral. Donc ça, c'est quelque chose. Donc si vous avez vos smarts et vous avez l'appli de la Bible, bible.com, vous pouvez même trouver à l'oral le Nouveau Testament en langue congolaise où Joe et moi, nous avons bossé. Et donc ça, c'est déjà là sur un smartphone. Donc moi, je trouve ça super. Moi, je n'ai pas fait, hein, donc je ne prends pas. Je reçois que des fleurs pour l'équipe qui a fait ce travail. Mais il existe beaucoup de barrières qui empêchent le saisie du contenu de la Bible. Déjà, le manque d'alphabétisation et l'absence d'une éducation primaire dispensée dans la langue du foyer. Donc ça, c'est quelque chose que nous prenons en main. Donc moi, j'étais spécialiste d'alphabétisation en étant prof de langue vivante dans une autre vie. Bon, j'ai juste parlé des smartphones. Je ne sais pas qui n'a pas un smartphone maintenant, que des gens qui sont tellement cool, je pense. Je fais pas de commentaires là. Et comment est-ce que nous incorporons des cultures riches et historiques dans le travail de la traduction biblique? Bon, avec le smartphone et aussi en utilisant les cultures de base. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, écouter Psaume 23 dans une langue sibérienne, je vais parler de ça, et ils chantent c'est comme les nains dans Le Seigneur des Anneaux. Non, à ce point-là, hein, c'est hallucinant. Et j'ai envoyé cette chose je gère l'équipe de jeunes, 15-20 ans, à l'église. Et pour faire une blague, parce que les gens me font toujours, ils ont chanté en anglais, mais en faisant ça. Mais c'était assez surprenant. Heureusement, c'était dans le club des jeunes et pas dans l'église. Parce que moi, j'ai toujours du mal à être pris au sérieux. Donc ça, c'est un peu mon fléau, mais voilà. Mais ce n'est pas seulement un travail académique que nous faisons. On ne le fait pas dans une bibliothèque, on n'est pas derrière une table toujours ou derrière l'écran. C'est un travail toujours en équipe. Et c'est aussi en partenariat avec les membres gérant le processus pour chaque communauté linguistique. C'est aussi un travail de consolidation et qui bénéficie des technologies les plus pertinentes. Je n'ai jamais vu pareil. Avec les avatars, les traductions en langue des signes. Vous savez qu'il y a 400 langues des signes dans le monde. Et dans beaucoup d'endroits, c'est très dur d'avoir le visage, surtout dans une situation musulmane, hindoue, etc. Donc, on a créé des avatars. Et moi, en Californie, j'ai un pote qui travaille pour Pixar. Il m'a dit, mais vous avez 10 ans d'avance sur nous. Parce qu'avec l'avatar, il faut prendre toutes les expressions. Parce que la langue des signes, c'est quand même une langue d'expression. Moi, je trouve ça super que le Seigneur fait venir les bons et les mauvais comme moi. Donc, vous avez les bons comme Joe et les mauvais comme moi. Donc, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Pour presque terminer, on travaille aussi avec des communautés partout dans le monde, parfois en s'adaptant à des peuples qui ont fui des conflits. Donc on a du travail qui se fait en Grèce, je peux vous dire ça, mais ça c'est pas quelque chose que vous trouverez sur notre site web, avec les Syriens, avec les Libanais, avec les gens qui ont fui les conflits en Moyen-Orient. Et pour nous, ce qui est très important, c'est d'approfondir nos amitiés et de nous soutenir les uns les autres avec un bonté. Donc ça, c'est quelque chose que je connais. Hein. Ça coule dans nos veines. C'est le thé, c'est pas le sang. Voilà. Et finalement, nous allons expliquer un peu au niveau Wycliffe France. On cible 5 options d'engagement, dont 2 en Eurasie. Et voilà un coup de projecteur sur l'option Sibérie. Donc, en Sibérie, il y a des peuples animistes qui sont dotés de cultures très riches, comme j'ai dit, comme cette chanson en utilisant vraiment, c'est le fond de la gorge, quoi. Les républiques de Sibérie sont ouvertes à toute initiative culturelle concernant leur langue. Donc, quand on demande un visa, on a facilement le visa. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose, une concrétisation de leur langue maternelle. Et on travaille surtout dans cette république Altaï, qui est en bas. Donc vous voyez, ce n'est pas un commentaire politique maintenant, mais la Russie européenne, c'est en gris. Je n'ai pas choisi la couleur, hein. Même si c'est assez pitoyable. Et tout ça, après les montagnes Urales, ça c'est la Sibérie. Et donc, de l'ouest à l'est, ça fait plus de 7000 kilomètres. Et on a parlé de fuseaux horaires. Ils ont 7 en Sibérie seulement. 7 fuseaux horaires. Et donc, dans cette république qui est à côté du Kazakhstan, pas trop loin des montagnes, donc là, les Himalayas, il n'y a que 200 000 personnes. Et ils vivent de l'autre côté de la montagne, dans une terre très, très sèche. Mais on trouve les gens trouvent la foi en écoutant la parole de Dieu dans leur propre langue. Et déjà, il y a des églises souterraines avec parfois 20, parfois 30 adhérents à Jésus qui ont laissé la chose animiste derrière eux pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, y compris cet homme qui est parmi les meilleurs chanteurs dans leur culture. Et lui, il a donné sa vie à Jésus. Et au lieu de chanter des récits épiques, un peu côté Genghis Khan maintenant, c'est des récits épiques. Donc, il a fait tout l'Esther en chantant comme ça. Moi, j'ai tout ça. Vraiment, c'est hallucinant, comme j'ai dit. Et finalement, pour la prière, nous avons des cartes de prière que vous pouvez prendre. Et pour la prière, j'aimerais bien suggérer qu'on prie pour les églises locales. C'est de petites églises, mais on a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Pour les équipes de traduction aussi, pour la transition entre la traduction biblique par écrit et puis le récit de la Bible à l'oral, parce que ce n'est pas évident non plus. Mais pour l'accès aussi à des consultants à l'extérieur de la Russie, surtout suite à la situation en Ukraine, et pour que les Altaï et les Khanty, donc je vais vous donner deux noms, de deux peuples complètement séparés, deux ethnies là, où les traductions bibliques avancent bien. Et finalement, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, YouTube et sur wycliffe.fr. Donc, pour avoir des nouvelles vraiment bien, bien fraîches et à jour, quoi. Si ça vous intéresse aussi au niveau freebie, donc on a ce livre qu'on voudra vous donner. C'est en anglais, en français, je veux dire. Donc, c'est J'apprends le grec du Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose, quand on fait la traduction, les gens me disent, mais vous utilisez quelle version? Et j'ai dit, version hébreu ou version grecque. On n'utilise pas Second 21 ou le... On dit en anglais le NIV, c'est presque inspiré par le Seigneur, quoi. Donc, on utilise ça. Donc, si vous voulez prendre ça, sentez libre. Bon, voilà, vous avez découvert un peu l'Eurasie. Ce n'était pas 10 minutes, c'était 11 minutes et demie. Donc, voilà. Non, je voulais quand même, parce qu'on est anglais, on aime bien rester à l'heure. On a appris aux Allemands et aux Suisses tout ce qu'ils savaient au niveau des montres, donc... Ouais, je peux vous dire une petite histoire pour vous faire rigoler. On est parti faire nos études à Nairobi parce qu'on voulait faire un master en Afrique avec nos collègues, nos frères et sœurs africains, africaines. Et donc, on a commencé à prier avec les gens qui travaillaient au Congo de l'Est. Et un Américain m'a dit, mais vous connaissez la pizza? Comme ça, pas pour blaguer, c'était sérieux. J'ai dit, mais vous savez que c'est nous qui avons inventé la pizza. Et les Romains sont partis avec. Donc, on a eu les pizzas depuis la naissance de Jésus. Et lui, il me regardait, il dit, sérieusement? J'ai dit, non, c'est une blague. Parce que vous savez que quand on fait une blague et on ne dit pas que c'est une blague, ça devient un mensonge. Donc, voilà, un peu comme les fake news de nos jours. Bon, si vous avez vos Bibles... Nous allons regarder en Jean 21 et je vais toucher sur plusieurs points. Je vais expliquer la mission de Dieu après que Jésus soit ressuscité. C'était redonné à ses disciples à côté du lac, mais aussi, surtout pour Pierre. Et rappelez-vous que Pierre a renié Jésus juste avant sa mort. Et ce n'est pas la première fois que Jésus a rencontré Pierre, mais quand même, ce jour-ci, Pierre est convoqué au bureau de Jésus. Et on sait, comme avec le chef de service au travail, ça va aller mal. Non, on va voir. Donc, nous allons prendre ce texte en Jean 21. Mais avant ça, puisque je suis quand même un bon traducteur de la Bible, j'aimerais bien juste voir ce qui se passe en Jean 20 et vraiment à la fin. Donc, si vous avez un smart, on fait ça, on clique quelque chose sur la flèche. Mais il faut quand même faire gaffe qu'on ne clique pas sur le récit oral. Ça m'est arrivé dans un enterrement. C'était très dur, hein. J'avais laissé ma Bible ouverte sur mon smartphone et au lieu d'avancer, j'ai touché la flèche, mauvaise manip, et tout d'un coup, tout le monde regardait tout autour. Moi, je regardais tout autour pour qu'on ne voyait pas que c'était moi. Et quand même, je suis parti quitte. Mais à la fin de Jean 20, on a ce verset, deux versets, j'ai mis 30 et 31. Mais je vais mettre l'accent sur le verset 31. Parce que je trouve vraiment intéressant, vraiment parce que Jésus n'avait pas de smart. Et les gens qui ont écrit le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de smart. Et c'était que dans un manuscrit qui allait d'ici jusque-là. Donc les coupures des chapitres, ça venait en 400 ans après, quoi. Et c'est écrit ici, je lis du second 21. « Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. » Bon, c'est intéressant. Vers la fin de Jean, c'est comme si c'est comme un film de Hollywood. On pense que c'est fini et puis tout d'un coup, il y a un morceau qui s'ajoute. Et maintenant, on va aller dans ce morceau qui s'ajoute. Mais ça, c'est très important à voir que ce que Jean va écrire après, ça fait allusion à ce verset. Ça fait allusion. Mais en grec, ça veut dire on change de proposition. C'est pas « mais tout ce qu'on a dit, c'est nul ». Maintenant, change de proposition. Et ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, ce que j'ai tendance à faire, je vais lire le passage avec mon joli accent anglais et je vais m'arrêter pour faire quelques commentaires. Et donc, j'ai quatre commentaires à vous faire. Et j'étais vraiment encouragé, les quelques paroles et les choses qui ont été déjà décrites par les membres de cette famille spirituelle vont tout à fait avec ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Donc, Jean 21, il faut que je trouve la chose, pas faire mauvaise manip, voilà, c'est bon. Ok, donc Jean, maintenant, donc on prend la chose en Jean 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Ouais, nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc maintenant, on va faire une petite pause. Ça, c'est leur survie. C'est pas « Ouais, j'ai une journée de congé, une journée de récup, je vais aller pêcher ». Parce que les Anglais, vous savez, on pêche les poissons et après, on les rejette à l'eau. J'ai jamais compris ça, mais voilà. Donc c'est ce qu'on fait, je pense, selon les règlements et les lois, peut-être de la reine, mais je vais lui demander la prochaine fois qu'elle me donne un coup de fil. Mais imaginons la déception. Ils ont bossé toute la nuit, ils sont à coup sûr fatigués et ils n'ont rien pris. Mais j'ai à vous dire qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont vraiment fatigués. Et ça va avec ce que notre frère a partagé. Et ce n'est pas juste C'est vraiment profondément fatigué. Ce n'est pas une fatigue, oui, je vais prendre une semaine de vacances et ça va partir. Et c'est quelque chose qui est vraiment lié au changement, changement, changement. Nous avons tous été emprisonnés dans nos maisons sur plusieurs mois avec le Covid. Nous avons eu la joie 3 fois au Royaume-Uni. Et d'être vraiment emprisonné, il fallait rester à la maison. Et puis, pour nous, pour moi, en tant qu'ancien dans notre église, porter le masque, porter pas le masque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ouvre. Et nous, on a eu toutes les fenêtres ouvertes, mais même en janvier, quand il a fait moins 10 à l'extérieur. Donc, il fallait aller aux grandes surfaces, dénicher les draps. Pour les vieux, et puis on avait des gens d'un côté qui disaient « Ouais, je m'en fous, j'ai la foi, je ne vais pas porter un masque. » Et les autres qui ont eu peur de leurs ombres. Et puis on devait, je peux vous dire, j'étais profondément fatigué, surtout par les changements. Et puis lire des pages et des pages et des pages de choses qui proviennent du gouvernement. Et je sais que parmi nous, il y en a comme ça. Et on va prier pour vous. On va prier. On va prier parce que être profondément fatigué, toujours, ce n'est pas bon. Et quelqu'un a parlé du repos, n'est-ce pas, dans les partages pendant la louange. Donc, on va toucher ce point. Donc, verset 4, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Moi, je trouve ça vraiment spectaculaire. Ils ont passé 3 ans. Moi, je n'ai pas vu Hugo depuis 2 ans, mais je sais que c'est Hugo, c'est mon pote. Moi, je trouve ça incroyable. Ils étaient tellement dans leur truc, c'est presque un deuxième point, qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et c'est intéressant parce que ce que Jésus leur dit, ce n'est pas « Salut, c'est Jésus, je suis ressuscité ». Qu'est-ce qu'il a dit ? Il leur a demandé une question. Et c'est une question qu'on demanderait à un pêcheur. Et il dit, n'avez-vous rien à manger ? Parce que le poisson égale la bouffe. C'est la nourriture. Ils lui répondirent, non. Et donc Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et maintenant, mon point, c'est qu'il faut écouter la voix du Seigneur. Même si les circonstances ne sont pas propices. Quand on est fatigué, Jésus nous demande de prendre un pas par la foi. Avoir confiance en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est dans la formule, ça égale l'abondance. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être les poissons sont sautés dans la barque aussi, peut-être. Mais Jean est vraiment spécifique, hein. Et on va lire ça. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à aller le retirer. Tellement il y avait des poissons. Ce n'est pas des poissons anglais, donc il ne fallait pas les rejeter à l'eau. Alors le disciple que Jésus aimait, donc ça c'est Jean, c'est code pour Jean, il disait à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que tu sais, quand on a l'abondance dans la vie, on voit que c'est le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose, il faut garder ça vraiment fermement. Quand on voit l'abondance, ça, c'est le Seigneur. Mais il y a quand même un petit enjeu, un petit challenge ici. Il faut demander le discernement du Saint-Esprit pour bien voir ce que Jésus est en train de faire. Parce que des fois, on n'arrive pas à voir cette abondance. Mais j'ai à vous dire que quand, par rapport à vos missions, tes missions de Dieu personnelles, il faut voir où est l'abondance, où est-ce que les portes s'ouvrent. Et ça, c'est l'abondance. Ça, c'est Jésus en présence. Parce que là où est Jésus, il y a l'abondance. Notre frère ici, il a chanté en disant, on regarde la beauté de la création. On voit l'abondance. Il n'a pas créé juste une seule bestiole. Noire, une qui était rouge. Il y a toujours des insectes qui se découvrent parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et son Fils aussi, qui est doté des mêmes caractères. Il est aussi un Dieu d'abondance. Et donc ça, c'est un deuxième point. Vraiment à vous focaliser sur l'abondance. Et vous savez que dans nos cultures, je sais qu'il y a la Manche et vous n'avez pas de la reine, vous avez, je dis plus, mais on a quand même des cultures qui sont plus ou moins pareilles. Donc ma culture à moi, ça veut dire, ouais, il y a ces bonnes choses, mais on focalise sur les choses qu'on n'a pas. Et c'est profondément décevant. Je pense qu'il faut avoir cet équilibre en toutes ces choses. Ça continue, donc Pierre, oui, même après la résurrection de Jésus. Moi, je trouve un peu bizarre, au lieu de mettre en speedo, il s'est revêtu et puis il s'est jeté à l'eau. Mais voilà, ça c'est Simon Pierre et avant le Saint-Esprit, je pense que tout pouvait se faire. Il était déshabillé, il a mis ses vêtements, sa ceinture, il se jeta dans le lac et puis les autres ont fait le gros travail. Donc Pierre avait déjà besoin d'être avec le Seigneur. Mais il y a un troisième point là, et c'est un peu comme Marie et Marthe. Donc Marthe est là, et ouais, je fais tout, et ouais il faut faire les crêpes, il faut faire ça, et ouais, ma crème de marron, et tout. Et Marie, elle a pris la décision de se mettre aux pieds de Jésus. Et nous devons avoir cette discipline aussi. Oui, il y a du travail, mais il faut avoir ces moments de repos où on est vraiment au pied de Jésus pour nous ressourcer. Ressourcer. Et donc, les disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Bon, ça, c'est déjà assez long. Donc, je pense que Pierre a pu bien nager, surtout dans tous ses vêtements, mais voilà, c'est moi qui imagine. Et donc, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là, un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 3 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Bon, en grec, c'est beaucoup plus clair que même Jésus a dit, oui, prenez quelques poissons. Je veux que que vous fassiez votre contribution. Jésus a déjà préparé à manger. Et j'ai à vous dire ça au niveau de la mission de Dieu. Dieu est déjà à l'œuvre depuis Abraham pour faire revenir tout le monde devant son trône. Et Apocalypse, merci d'avoir mis ça, Apocalypse 7, quand j'entre au ciel, moi j'attends voir des gens, des peuples congolais, des peuples africains, que nous avons bossé avec devant le trône de Dieu. On va les voir parce que tellement ils ont du style. Ils savent danser, ils savent chanter. Donc vraiment, si vous voulez apprendre, il faut aller au Congo. Hein. Ça, c'est où nous avons appris ces choses. Mais aussi, il y a cette idée que Jésus est déjà à l'œuvre. Et vous savez, ce qui nous fatigue des fois, c'est que nous sommes en train de dire, « Ah oui, il faut que j'invente tout. » Il faut que j'invente tout, il faut que je fasse un gros travail. J'ai à vous dire que même au niveau de la traduction biblique, on va où les portes s'ouvrent. Parce que le Saint-Esprit est déjà bien, beaucoup plus âgé même que moi, mais beaucoup plus âgé, beaucoup plus à l'avance pour commencer déjà la chose. Et tout ce que nous faisons, c'est participer dans la mission de Dieu. En tant qu'individu, mais aussi en tant que famille spirituelle. Et donc ça demande un discernement. Et ce que j'aime beaucoup, je vais abréger parce que j'aurai eu ma dose et je voudrais prier pour vous aussi. C'est le moment où Pierre est convoqué au bureau de Jésus. Et ce qui est vraiment intéressant, si quelqu'un ou si vous voulez regarder en Jean chapitre 18, verset 18, Pierre a renié Jésus à côté d'un feu de braise. Et ici, Jésus lui demande, ce n'est pas un acompte, mais il demande à Pierre, devant un feu de braise. Et vous savez que l'odorat, parmi les cinq sens, c'est le sens le plus fort. Par exemple, quand je sens le pain, je pense à mes parents. Le cuir, mon père rafistolait des voitures comme les Rolls-Royce. Moi, je sens le cuir et tout de suite, je suis retransporté. Il y a 200 ans où j'étais petit, quoi. Bon, pas 200, mais quand même, c'est exagéré. Mais je vois que vous avez commencé à somnoler, donc je voulais vous réinvigorer un peu. Mais moi, je trouve ça très, très bien que Jésus a pris le même contexte, la même ambiance où Pierre a renié Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'était pas « Ouais, qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Pourquoi est-ce que tu m'as renié? J'ai quand même je peux écouter ce que tu as fait, etc. » Et dans un des narrateurs des évangiles, je pensais en Luc, mais j'ignore maintenant, Jésus s'est retourné pour regarder Pierre. Imaginons la dernière chose que vous avez fait pour le Seigneur, c'était la défaite complète. Mais qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Il a dit, Pierre, tu m'aimes? Ouais, tu sais que je m'aime, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Donc pour chaque fois qu'il a renié, tout ce que Jésus a demandé, c'est est-ce que tu m'aimes? Et à la fin, la troisième question, il y a quelque chose qui est super important pour nous en tant que chrétiens, mais aussi en tant que famille d'église. Jésus dit à Pierre, nourris mes agneaux. Nourris mes agneaux. Et ça, c'est notre mission. Notre mission, c'est de nourrir des agneaux. Les agneaux qui sont ici, les agneaux qui sont là. Et j'ai à vous dire, c'est une critique par rapport à notre propre Église au Royaume-Uni. On a tendance maintenant à nous renourrir. On est là pour nous. On n'est pas là pour les gens dans les rues, dans ce quartier, dans la ville, dans la région et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour le faire, pour nourrir les agneaux, il faut avoir quelque chose à leur donner. Et ce n'est pas un programme. C'est un cœur qui est ouvert. Donc je vous demande de vous mettre debout. Je vais prier pour vous. Si je peux. Donc déjà, Saint-Esprit, moi je voudrais prier que tu nous donnes du discernement. Et là, quand j'ai dit il y a des gens qui sont profondément fatigués, dans vos cœurs, dans vos têtes, vous avez dit oui, ça c'est moi. Et donc, je voudrais commencer en priant pour vous maintenant. On va commencer à ouvrir les vannes et les écluses pour faire couler cette eau vivante. Cette eau vive qui est là pour nous, de jour en jour. Et quand on est profondément fatigué, ça prend du temps. Donc ce repos que quelqu'un a déjà partagé, cette offre du Seigneur, ça commence maintenant, commence à ouvrir les vannes pour faire couler l'eau vive, mais ça va continuer pendant la semaine. Ça continue pendant la semaine. Ésaïe 40 nous promet que si on attend de Dieu, on aura nos forces renouvelées. Et donc moi, je prophétise maintenant pour des forces renouvelées dans vos situations, dans vos contextes, dans vos familles, que vous ayez un nouvel élan. Et ce n'est pas pour dire « oui, j'ai fait une grosse faute, c'est ma faute » et tout ça. Il faut être comme Pierre. Jésus va juste demander « est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Alors nourris mes agneaux. » Donc il faut qu'on soit prêt pour recevoir du Seigneur, pour donner la nourriture à ses agneaux. Et je voudrais prier aussi, deuxièmement, pour un esprit de discernement, pour voir le monde comme Jésus voit le monde, pour voir Nîmes comme Jésus voit Nîmes, pour voir vos sœurs et vos frères dans la famille de Christ comme Dieu, comme Jésus les voit. Parce que quand on voit le monde à travers les yeux de Dieu, ça nous donne tout à fait un autre élan, une autre énergie. Il faut qu'on va, c'est une repentance pure, ça veut dire qu'on se retourne et on va dans une autre direction. Et ce discernement, ça va venir. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète avec une carte de crédit, c'est quelque chose, c'est un investissement. Et on commence à dire aux gens, Dieu, c'est presque comme une lamentation. Seigneur, j'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Je suis fatigué parce que c'est mon énergie que j'investis, que je dépense pour changer une chose et ça ne change pas. Et puis, troisièmement, le Seigneur a une mission pour toi, chaque personne. Il y a des gens que seulement toi, tu pourras toucher. Mais il y a aussi une mission pour vous en tant que famille spirituelle. Et donc, Seigneur, moi, je voudrais prier pour cette assemblée. Je voudrais prier une bénédiction de discernement, une bénédiction d'unité, de cohésion, pour bien comprendre ce que tu as pour eux après Covid, après le Micmac, après toutes les manigances, Seigneur, pour que nous soyons fermes et affermis dans nos foi, pour que nous soyons ensemble comme une bande, comme les disciples de Jésus, qui ont quand même changé le monde. Il y a 2000 ans, il n'y avait qu'une centaine d'adhérents, de croyants en Jésus. Et maintenant, on a une population de 2 milliards de personnes qui vont à l'église, comme Norbert a suscité. En Samoa de l'Ouest ce matin, c'était à minuit en France, ils ont commencé à louer le Seigneur. Donc Seigneur, on veut juste dire, on est là, tel qu'on est. Tu connais nos fautes, tu connais aussi nos points forts. Seigneur, prends tout. Encore une fois, donne-nous du discernement et donne-nous aussi les oreilles qui écoutent ta voix pour nos missions à nous en tant qu'individus et aussi nos missions à nous en tant qu'Église. Et on te dit merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen.